Bonjour tout le monde. Auditeurs, auditrices, bonjour. L'émission spectaculaire commence. Mercredi 29 novembre 2023. Christophe Renaud au micro. Francis n'est pas là. Encore une fois, mais il sera bientôt de retour. Il aurait dû être là aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Je ne suis néanmoins pas seul, rassurez-vous. Je suis avec Omar Alouche, écrivain anthropologue, croix-roussien. Il va nous parler de lui et nous parler de sa publication, son dernier livre, Éclat de silence, publié aux belles éditions Libelle en mai dernier. Un livre très poignant sur les paroles d'immigrés algériens, mais pas seulement, à Lyon, dans les années 60, post-62, mais pas seulement, les années bien plus tardives encore, ça peut aller jusqu'à 2000. Des témoignages que Omar, en anthropologue, en ethnopédiste, psychologue, a recueilli dans les années 2000 et dont il nous fait part dans ce livre Éclat de silence, une sorte de deuxième publication en quelque sorte, une reprise de ces témoignages qu'il avait recueillis auparavant. Vous souhaitez en savoir davantage, et bien il va le dire dans quelques instants. Une fois que nous avons commencé un peu en musique avec un chanteur compatriote un petit peu de Omar Alouche, ce chanteur franco-algérien, Rachid Taha, carte de séjour dans les années 80, il était à Lyon, décédé depuis. Rachid Taha va chanter un premier titre, on l'écoutera ensuite aussi. Là, tout d'abord, écoutons-le avec Écoute-moi camarade, pour bien lancer cette émission. C'est extrait de l'album Diwan 2, et puis nous le retrouverons ensuite un peu plus tard dans l'émission avec Yaraya et d'autres titres. Vous nous écoutez, vous faites très bien, jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, et c'est sur le 102.2 de la bande FM, ou bien sur internet, ce qui est une très bonne chose aussi, radiocanu.org.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes. Sous l'art à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Mais qui est ce camarade? Je parle de ça, personne n'est là.
Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà.
Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Bonjour, Omar Alouche.
Bonjour.
Alors, on avait parlé de Rachida, ce n'était pas forcément par ce titre que vous souhaitiez qu'on pouvait commencer, il était plutôt question de ce titre Yaraya, qui va arriver, il va arriver, mais je le trouvais intéressant cette histoire d'amour, je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Est-ce qu'on pourrait trouver un petit peu des figures de femmes dans cette première publication que vous avez faite? Ce n'est pas celle pour laquelle vous êtes venu parler du livre Éclat de silence, publié aux éditions Libelle. Rappelez-vous, éditeur auditrice, nous recevions le directeur de ces belles maisons d'édition, c'était il y a deux ans, en décembre 2021. Et bien vous, en octobre, juste un peu avant, vous sortiez donc Éclat de silence, sorti en mai dernier, mais Le paysan contrarié, disons, ça c'est le sous-titre, le titre principal, c'est de Sebdo Lacroix-Rousse, Un paysan contrarié, aux éditions de l'Harmattan, sorti en octobre 21. Donc est-ce que, Omar Alouche, est-ce que dans ce livre, on pourrait trouver des figures féminines? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ce livre? Et d'ailleurs, comment vous présenter? Et d'ailleurs, comment vous-même pourriez-vous un peu rappeler, indiquer qui vous êtes, ce que vous avez été? On trouve beaucoup d'éléments dans ce livre, mais vous, si on ne passe pas par de la lecture, comment procéderiez-vous?
D'abord, merci pour l'invitation. Moi, je pense que commencer par ce livre, c'était une très bonne idée, parce que c'est une manière, en fait, de me présenter pour, en tout cas pour les auditeurs qui le souhaiteraient plus tard. C'est un livre qui s'appelle De Sebdo à la Croix-Rousse, Un paysan contrarié, que j'ai écrit. C'est un récit autobiographique qui raconte, en fait, ma traversée entre les deux rives, entre mon pays, l'Algérie, le pays où je suis né, et la France, et plus singulièrement Croix-Rousse, puisque je suis devenu aujourd'hui un Croix-Roussien. Donc, le début, tout au début, pour arriver très vite pour répondre très vite à votre question, je suis né à Sebdo, c'est une petite ville de garnison dans l'ouest de l'Algérie, pas loin de la frontière avec le Maroc. J'y suis né le 9 octobre 1947. Et j'y ai vécu toute mon enfance, puisqu'après j'ai quitté le village et que nous avons été en ville, dans une ville
qui s'appelle Tlemcen. Et puis il y a eu un peu d'Alger un peu plus tard aussi.
Voilà, où j'ai fait mes études secondaires avant de rejoindre l'université en 1967. Voilà, rapide parcours. Et je suis arrivé en France, à Dijon précisément, en 1992. Et je suis arrivé après des événements extrêmement durs, extrêmement violents, qui endeuillaient mon pays. C'était cette fameuse période qu'on a appelée la décennie noire, c'est-à-dire ce moment où il y a une interruption des élections législatives, où le Front islamique du salut menaçait de prendre le pouvoir, et où l'armée a interrompu le processus électoral. Et donc s'en est suivi une guerre fratricide extrêmement violente.
Les premières pages sont assez dures, vous revenez dessus et vous nommez des morts que vous avez connues.
Je parle dans le premier texte d'ailleurs, qui s'appelle Huit clos. Je parle de mon départ d'Alger. D'ailleurs, une journée marquée au fer rouge, puisque c'était en même temps j'ai été non pas le témoin, mais j'étais là dans l'aéroport au moment où il y a eu l'attentat, un attentat extrêmement sanglant qui a fait de nombreux morts et blessés. Et donc je suis parti dans des circonstances extrêmement dures où je perdais des copains, des amis, des gens que j'avais connus à la fac, etc. Voilà. Et je suis arrivé donc en 1992 à Lyon, et j'ai eu un effet d'aubaine. J'ai eu une bourse à l'époque, ça a été le fait d'aubaine qui m'a fait partir, en fait, qui m'a permis de partir, puisque j'ai eu une bourse pour l'Université catholique de Lyon, où j'ai fait une formation en communication qui a duré à peu près 5 mois. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'installer, en fait, à Lyon, et que j'y vis depuis cette période-là. Voilà. Un petit parcours. Alors, parallèlement à ça, puisqu'il me fallait à l'époque une raison sociale pour vivre sur le territoire français, je me suis inscrit à l'université en faculté de sociologie, où petit à petit je me suis... J'ai fait une, dans un premier temps une maîtrise, puis ensuite un 2A, on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard.
Avec éclat de silence.
Autour du livre, c'est une manière d'introduire, de répondre à votre question avant de revenir à l'objet même de notre rencontre, qui est tout de même éclat de silence. Donc voilà.
Vous évoquez l'année 92, j'ai sous les yeux l'année 93 également, qui a été très dure. Dans ce premier livre donc de Sebdou à la Croix-Rousse, L'Harmattan, les pages 22-23, vous évoquez entre le 26 mai et je crois le 5 mars 94, 26 mai 93, vous évoquez trois morts, Tahar Djaout, Mahmoud Boussebsi, et vous parlez même aussi de Mohamed Boukobza que vous connaissiez, même vous terminez aussi Ahmed Assela. Enfin vraiment, vous ne pouviez pas revenir après 92, quand vous décidez de vous installer. Vous n'évoquez pas, vous n'envisagez pas de revenir.
Parmi les très nombreux journalistes et artistes et intellectuels qui ont été, vous en avez cité quelques-uns, malheureusement la liste est beaucoup plus longue, puisqu'il y a eu à peu près 60 assassinats de mémoire.
Ciblés, c'est ça,
et ciblés contre des intellectuels francophones, je précise, puisque le Front islamique du salut nous considérait intellectuels francophones comme ce qu'il appelait le parti de la France. C'est sa manière à lui de nous désigner à la vindicte publique. Et donc parmi ces personnes qui ont été assassinées dans des conditions atroces, il y avait cet ami donc dont vous voulez parler, qui était le directeur de Ahmed Assela, qui était le directeur de l'école des Beaux-Arts, qui a été tué en même temps que son fils unique, qui était avec lui à ce moment-là, à l'école donc, des Beaux-Arts, et il a été tué le même jour, son fils Bouba. Et donc, je suis parti à ce moment-là, donc c'était des choses... c'était un moment que j'ai appelé huis clos, parce que c'était un moment terrible, c'est-à-dire où je quittais mon pays en laissant derrière moi des gens... qui ont malheureusement été des cibles des islamistes. Voilà dans quelles conditions je suis arrivé à Lyon. Ensuite, bon, peut-être dire quand même deux mots sur la suite. Après m'être inscrit en fac, puisqu'il me fallait une raison sociale, j'ai fait des petits boulots alimentaires pour pouvoir survivre. Et ce n'est qu'en 1994 que j'ai eu mon premier travail au sein de l'association de lutte contre le sida. Alors, pourquoi l'association de lutte contre le sida? Parce que en Algérie, je travaillais dans un institut qui s'appelle l'Institut National de Santé Publique, où j'avais en charge la communication autour des thèmes de santé, notamment...
Mais pourquoi la santé?
Parce que je suis...
Il faut l'évoquer une seconde.
Parce que j'ai une formation de pharmacien.
Vous n'avez en revanche jamais exercé.
Que je n'ai jamais exercé, mais je suis resté tout de même dans un domaine assez proche dans le domaine de la santé. Puis j'ai travaillé notamment au ministère de la Santé dans cet Institut National de Santé Publique, où je faisais partie de l'équipe technique autour de la lutte contre le sida, dans un comité national de lutte contre le sida. Donc lorsque je me suis présenté à Lyon, j'avais dans mon CV ce parcours.
Une expérience déjà.
Et ça m'a aidé pour accéder à ce premier travail en fait en 1994. Et l'association de lutte contre le sida m'a confié ce travail, d'abord parce que j'avais cette expérience-là, Et ensuite, parce que j'avais aussi ce début de formation à l'université, mais c'est surtout parce que j'avais une expérience personnelle qui m'a aidé à acquérir cette première expérience. Donc, l'association de lutte contre le sida, pour faire un petit retour en arrière, avait commencé une expérience de prévention dans le foyer de travailleurs migrants. C'est comme ça qu'on les appelait, des FTM. Il y en a 50 à Lyon.
Donc Blain notamment.
Ça représentait une population très importante. Et ça représentait, c'était surtout une population d'hommes seuls, de pères à distance, pour reprendre la formule d'un sociologue qui s'appelle Jacques Barou. Et cette population s'est retrouvée, comme beaucoup d'autres publics, mais pas spécialement, confrontée à la question du sida. Pour une raison très simple, que ce sont des hommes seuls qui se retrouvent seuls dans les foyers et qui ont pu malheureusement être contaminés. Voilà. Donc c'est la campagne de prévention a commencé ainsi. On m'a demandé en fait de monter un projet auprès de ces hommes pour faire de la prévention. Donc il a fallu imaginer tout un protocole. Alors, pour la première fois, un protocole en français et en arabe, c'est important de préciser, parce que c'est la langue de ma mère, et que parler la langue de ma mère était quelque chose d'important dans des circonstances pareilles, sur un sujet aussi délicat, aussi dur à aborder. Voilà, donc mon travail a commencé en 1994 et il a duré 20 ans. Ce qui fait que, comme je le dis à mes amis, j'ai crapahuté dans les 50 foyers de l'agglomération lyonnaise pendant 20 ans et j'ai découvert, par le biais de ce travail, beaucoup d'hommes qui m'ont livré beaucoup de choses, qui m'ont touché, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges. Et c'est en partie là-dedans que j'ai puisé la matière pour mon livre qui s'appelle Éclat de silence.
Eh bien, la transition est toute faite, effectivement. Vous êtes comme ça, nous sommes passés d'un livre à l'autre. Les éditions L'Harmattan pour De Sédou la Croix-Rousse, un paysan contrarié. Et là, nous sommes disposés à évoquer Éclat de silence aux éditions Libelle, avec quelques vers d'un poème de vous-même en couverture. J'aime beaucoup vraiment ces éditions, très élégantes, un format assez intéressant. Et donc, on voit quelques mots, quelques vers. Émigré du Rif, c'est au pluriel, émigré du Rif, de Basse-Normandie, des Audes, n'importe quoi, des Aurès, de Tunisie ou d'Arménie, ils sont un jour arrivés sur les rives du Rhône. Oui, c'est que c'est un exemplaire que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est très bien, ils sont toujours couverts, ces exemplaires, mais là avec la lumière, ça marche mal. Je pourrais continuer, mais je vous propose, auditeurs, auditrices, d'écouter, puisque nous parlons d'émigration, le titre de Rachida est peut-être tout à fait indiqué. Peut-être, Omar, une petite introduction de ce titre, avec une traduction de ces mots sur Yaraïa.
C'est Éclat de silence. Alors, pourquoi Éclat de silence?
Le titre de ce livre, certes.
Est parti d'une réflexion à partir de l'oxymore suivant, un silence assourdissant. Donc l'oxymore me parlait, et en réfléchissant, je me suis dit, voilà, il faut que je retrouve ce mot silence dans le livre, et ça a donné Éclat de silence. Voilà, c'est pour le titre. Maintenant, pour le livre lui-même.
Moi, je pensais au titre parce que nous allons en parler, Omar. Nous allons évoquer ce livre dans une sorte de deuxième temps, une fois que nous aurons entendu. Je pense que ça peut faire une belle introduction, ce titre de Rachida Yaraïa, qui d'ailleurs n'est pas de lui. Il y a une petite histoire, vous la livrez maintenant ou après le titre?
C'est une chanson de Dahmal Harachi. Ahmed Harachi est un ouvrier, poète, chansonnier, qui a écrit des chansons, dont beaucoup de chansons extrêmement nostalgiques sur l'émigration. et qui, dans un premier temps, s'est produit dans les bars, dans les petits cabarets parisiens, et ces chansons ont été reprises, notamment celles qui ont été reprises avec tout le succès qu'on connaît par la chitarra.
Traduction peut-être de ces mots qui, justement, donc voilà, je vais encore lire une troisième fois, ça fait une introduction incroyable. Les mots sont bien en rapport.
Oui, c'est une chanson sur l'exil, sur la douleur de l'exil, sur l'arrachement de l'exil et sur cette nostalgie qui taraude les émirés, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, par ailleurs, qu'ils soient d'ici ou de là-bas.
De Normandie, des Aurès ou de Tunisie.
De Normandie ou des Aurès, quoi.
Comment le prononcer?
Il n'y a
pas le tutoiement?
Non. Ah oui, tutoiement, il n'y a pas de...
Toi qui as voyagé,
tu as voyagé, mais tu retourneras un jour. C'est un peu difficile à traduire, de la reparler, mais c'est en tout cas l'idée, la tonalité, c'était un départ, un exil forcé, un exil contraint, et puis tout ce que ça a comporté comme douleur, comme séparation, comme arrachement, comme on parlera plus tard, quelqu'un que je cite à plusieurs reprises s'appelle Tahar Ben Jelloun, qui était un psychologue qui avait écrit un livre qui s'appelle « La plus haute de solitude ».
D'abord Rachid Taha, et puis ensuite nous évoquerons ce livre Éclat de silence, publié aux éditions Libelle, et puis nous parlerons donc Tahar Ben Jelloun. Il y a encore d'autres auteurs aussi, Pierre Bourdieu peut-être, ou Abdelmalek
Sayed,
c'est ça, très bien. Rachid Taha pour commencer.
Yeah.
Le titre se termine tout doucement, Ya Raya, chanté par Rachita, une suggestion musicale de notre invité, Omar Alouche, qui nous a parlé d'un premier livre, pour commencer l'émission, de Sebdou à la Croix-Rousse, un paysan contrarié, aux éditions L'Harmattan, mais ça c'est plus national, je dirais, L'Harmattan. En revanche, les éditions Libelle sont complètement locales, elles sont lyonnaises. Eh bien, Omar Alouche a sorti un deuxième livre, très récemment, en mai dernier, Éclat de silence, avec quelques vers, j'en ai d'autres, j'en ai lu quelques-uns tout à l'heure, je peux en lire d'autres à nouveau. Désirs enfouis, rêves brisés, il devait s'acquitter d'un droit d'entrée qui avait pour nom effacement et humiliation. Ils l'ont payé. Omar Alouche, comment pourriez-vous peut-être commenter ces vers ou de manière plus générale nous indiquer le cheminement d'écriture, ce qui vous a conduit à arriver à Éclat de silence? Ce n'est pas une publication complètement originale, vous êtes inspiré de, oui, d'écrits déjà produits, et cela a trouvé sa source dans, vous l'avez indiqué en première partie de l'émission, votre rôle à l'ALS.
Je voudrais d'abord commencer, si vous permettez, par raconter un peu la genèse de ce livre. Donc, ce livre rassemble, appuyé dans de nombreux textes que j'ai collectés, que j'ai glanés tout au long de mon expérience professionnelle.
À partir des années 90, 94, 15.
À partir des années 90, mais surtout à partir de l'année 2000, où j'ai eu l'occasion avec une association qui travaillait auprès des migrants, qui s'appelle l'ASFAM, travailler sur auprès d'hommes qui vivaient, soit dans les foyers, mais aussi dans le diffus, à Vaux-en-Velin, précisément. Donc, pourquoi j'ai rencontré ces hommes? Quel était l'objectif? On s'était posé la question, les acteurs sociaux qui travaillaient dans cette association s'étaient posé la question suivante. On se disait, les hommes, c'est à la fois un constat et en même temps un postulat qu'ils émettaient, c'est que les hommes d'origine étrangère, notamment maghrébine, mais pas que, étaient absents de l'espace public. On ne les voyait pas dans les lieux publics, on ne les voyait pas dans les écoles, on ne les voyait pas dans les mairies, on ne les voyait pas dans les lieux publics. Ils étaient absents, ils étaient comme absents de l'espace public. Ça, c'était le premier constat. C'était donc se poser la question de pourquoi ils étaient absents. Le deuxième postulat qui était émis par les acteurs, c'était de dire ils sont absents et ils sont assez, comment dire, ils n'ont pas parlé de leur histoire. Ils ne parlent pas de leur histoire à leurs enfants. Donc avec toutes les questions que pouvait soulever cette hypothèse, ce postulat. Donc, nous sommes partis de cette idée très simple d'aller en fait vérifier si ce postulat était bien tenu, on va dire, et en même temps leur poser la question sur leur propre silence vis-à-vis de leurs enfants. Donc, ça a commencé par la rencontre des anciens, comme j'ai dit entre guillemets. La première génération, nous avons recueilli leurs textes. Ça a été tout un travail de préparation en amont important. Nous avons réussi à les faire parler de leur histoire migratoire, notamment pour les Algériens, de leur histoire entre les années de la guerre d'Algérie et les années d'après-indépendance, parce qu'on retrouvait ces deux populations.
62, c'est ça,
ces deux publics, 62. Et donc, après les avoir fait parler, après avoir traduit leurs textes, parce que j'ai aussi traduit leurs textes de l'arabe vers le français.
Vous l'avez indiqué tout à l'heure, peut-être une seconde, l'arabe était la langue de votre mère, et le français
oui,
était donc davantage
oui,
peut-être la langue.
Je ne l'ai pas précisé, ma langue maternelle c'est l'arabe, évidemment, et je parle le français comme tous les enfants de l'époque de la colonisation. J'ai été un enfant d'école coloniale. Et de plus, je portais ça dans ma propre histoire singulière, puisque mon père était le premier instituteur indigène du village de Sebdou, dont je parlais tout à l'heure. Donc je suis à la fois imprégné des deux langues, des deux bains sonores, des deux imaginaires, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a considérablement aidé dans le travail que je faisais auprès des compatriotes. Donc je reviens.
Et pour finir peut-être une seconde sur votre père qui est devenu une figure un peu dans ce village, oui, puisqu'il a pris la tête de l'école.
Mon père était le premier instituteur. Il faut essayer de s'imaginer ce que c'était être
dans les années 50, ouais.
Dans les années, au début des années 50. Donc mon père, après avoir été enrôlé dans l'armée française et s'être battu avec la France
pendant la Deuxième Guerre mondiale,
est revenu au village et il est devenu le premier instituteur autochtone, indigène, comme on disait à l'époque, du village, et il a fait ensuite toute une série de petits villages, de lieux-dits, avant de devenir lui-même directeur de l'école du village. Voilà, je suis pétri de cette culture, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on a appelé les hussards de la République. Mais disons que, avec un profil particulier, parce que mon père étant autochtone, a été à la fois porteur de cette culture, mais avec sa propre vision des choses, qui était la vision nationaliste. Hein. Il était, voilà, je dis souvent, il était instituteur, mais revu et corrigé par le nationalisme de l'époque. Voilà. Donc après ce détour, je reviens donc encore une fois au livre. C'est tous ces récits, toutes ces choses qui m'ont été livrées autour de la question de la transmission. Voilà, je n'avais pas dit le mot. En réalité, le début de l'aventure a tourné autour de la question de transmission. Est-ce qu'il y a transmission ou est-ce qu'il n'y a pas de transmission? Alors pourquoi cette question-là? Parce que derrière, il y a évidemment l'idée que ne pas transmettre son histoire, c'est de créer des frustrations chez les gens de deuxième génération. Créer un vide, et parfois même plus qu'un vide, des formes de ce que certains sociologues ont appelé ou psychologues ont appelé l'errance identitaire. Voilà, c'était un peu cette question là donc une fois qu'on a recueilli, je reviens en arrière, une fois qu'on a recueilli les paroles des anciens, nous les avons transcrites, nous les avons lues à d'autres publics. Et une fois qu'on les avait lus à notre possible, dans plusieurs lieux, dans des centres sociaux, de Grand-Vire, de Carco, enfin, on a dans toutes sortes de lieux, nous les avons ensuite lus à des gens de la deuxième génération. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ces paroles ont fait boule de neige dans le quartier. Et ça a permis de faire le lien qui ne s'était pas fait, en fait, dans la réalité des familles, c'est que, du coup, symboliquement, les pères, par ces textes-là, ont pu parler aux enfants de la deuxième génération. Donc, ça donne totalement la tonalité du livre, c'est qu'il y a à la fois les textes des anciens et une grande partie des textes, dans la moitié du livre, qui sont les textes qui m'ont été inspirés par des enfants de la deuxième génération, en écho aux paroles des anciens. Donc c'est, voilà comment le livre balance entre ces deux propos. Il y a une dizaine de chapitres avec 54 textes. Donc le livre est séquencé en chapitres. Le premier chapitre, c'est partir. Ensuite, c'est le thème sur la solitude. En fait, il y a plusieurs thèmes qui sont développés tout au long du livre. Et avec tout cela introduit par des citations, des propos même des protagonistes, des migrants eux-mêmes.
Je ne sais plus quelle question poser. Si j'en avais peut-être une toute petite, vous avez dit on. On peut peut-être les nommer dans les remerciements. On, c'est une équipe, c'est ça? C'était avec Magali et Catherine,
oui, alors,
je suppose.
Oui, vous avez bien fait de me le rappeler. Donc, cette aventure, je l'ai menée avec Magali Galizi, qui était ma comparse, comme je disais, celle qui m'a accompagné dans cette aventure, et voilà, qui était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, qui avait beaucoup d'empathie pour les personnes qu'on rencontrait, et voilà, c'est une façon de lui rendre hommage aussi. Je voudrais aussi dire, ne pas oublier quand même la contribution du père Christian Delan, qui m'a fait à la fois l'amitié et le cadeau, je le considère comme un cadeau.
Un bel honneur, également, on peut dire. Un honneur aussi.
En tout cas, je trouve que c'est une très belle préface de Christian Delorme, qu'on n'a pas besoin de présenter à Lyon, qui était un des principaux protagonistes de la marche des égalités, de l'égalité, qui vient d'ailleurs d'être commémoré
40 ans.
Il y a des 40 ans qui m'a fait donc l'honneur et le plaisir de préfacer mon livre. Et évidemment aussi, j'en profite aussi pour parler de Christophe Clerc, sans lequel cette aventure n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire que c'est à travers la rencontre de Christophe Clerc que ce projet est né à Vaulx-en-Velin, qu'il a ensuite, il s'est développé, il a essaimé, et qui a rejoint d'autres textes que j'avais aussi recueillis en dehors de Vaulx-en-Velin, des textes que j'ai fait à partir de 5 habitants de la Guillotière, donc eux-mêmes émigrés, d'origine espagnole, mais aussi tunisienne, mais aussi arménienne. Et enfin, de tous les textes que j'ai écrits, que j'ai glanés tout au long de mon expérience dans les foyers de travailleurs migrants. Alors peut-être deux mots sur les foyers des travailleurs migrants. Pardon. Sur les travailleurs migrants qui vivent dans les foyers, parce qu'ils constituent quand même un peu la partie la plus importante de mon livre en termes de témoignages, en tout cas. Hein. Donc c'est la caractéristique de ces migrants qui vivaient. Certains vivent encore, mais il n'y en a plus, hélas, beaucoup, parce qu'ils étaient déjà âgés au moment où je les ai rencontrés.
Émigration des années 60, ils sont nés dans les années 40-50.
Oui, ça fait 20 ans quand même. Donc, hélas, je pense que beaucoup parmi eux sont partis. Ce qui pouvait les caractériser, si je puis dire, c'était une situation de double peine, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Ça veut dire qu'ils cumulaient les problèmes de tous les immigrés avec cette particularité, c'est que eux n'ont pas vécu avec leur famille. Ils ont fait le choix de laisser leur famille de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, Algérien, Marocain, Tunisien, ça veut dire que une partie de l'émigration, pour ceux qui s'intéressent à cette question, avait fait venir la famille vers les. D'ailleurs, après l'indépendance, la plupart des familles regroupées, c'était après l'indépendance, mais une partie de cette émigration, de ces hommes, avait fait un choix extrêmement compliqué, douloureux, de laisser leur famille de l'autre côté. Alors, c'est la question du double exil, et je voudrais à ce propos citer une phrase que j'aime bien, qui a été écrite dans la préface de Pierre Bourdieu à un livre de Abdelmalek Sayad. Abdelmalek Sayad, c'est le Socrate algérien, c'est comme ça que ses amis l'appelaient. C'était à la fois un philosophe, un sociologue, un écrivain public, puisqu'il il a vécu avec les ouvriers, et c'est sans doute le plus grand sociologue de la question des migrations maghrébines. Donc je cite Pierre Bourdieu, qui dit: comme Socrate, l'émigré est sans lieu, déplacé, inclassable, ni citoyen ni étranger, ni vraiment du côté du même, ni totalement du côté de l'autre. L'émigré se situe en ce lieu bâtard, à la frontière entre l'être et le non-être social, de trop partout, et autant désormais dans sa société d'origine que dans sa société d'accueil. Et dans la même page, j'aime bien faire ça, je cite aussi les paroles d'un habitant qui s'appelle Mimoun, je ne sais plus où j'habite, j'ai ma valise dans ma tête. Qui dit ce que dit Bourdieu de manière savante, mais qui le dit à sa façon, mais qui dit la même chose. C'est cette douleur de ce que Sayad a appelé le double exil, la double absence. Absence à leur pays et absence à leur pays d'origine et absence au pays d'accueil. Donc vous pouvez imaginer ce que ça donne ensuite, à la fois du point de vue psychologique et du point de vue de toutes les conséquences que ça peut avoir sur du point de vue de l'affect de ces gens-là. Et à ces gens-là, la mission qui m'était confiée avec mes compagnons, je précise que j'avais des compagnons à la fois des hommes et des femmes qui m'accompagnaient dans cette aventure. Je rappelle où nos interventions se faisaient dans les deux langues. Il fallait leur parler d'un sujet qui est extrêmement douloureux, qui était la question du VIH, la contamination, qui avait pu toucher certains des compatriotes, et de faire de manière la plus délicate, la plus adaptée, la plus respectueuse, trouver les bonnes portes d'entrée pour ne pas les brusquer, pour ne pas les brutaliser face à cette question-là. Voilà, ça c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué dans mon expérience, dont je parle d'ailleurs à certains moments dans le livre, qui m'a d'une certaine façon changé, personnellement. C'est-à-dire que c'est un milieu que je ne connaissais pas avant de rentrer dans les foyers. Vous savez, il y a plein de gens à Lyon qu'on croise dans les métros, dont des vieux émigrés, mais dont on ne connaît pas grand-chose. Et cette expérience a été extrêmement instructive pour moi. Elle a été extrêmement, je dis même, passionnante, parce qu'elle m'a fait découvrir, au-delà de la question qui m'a amené, qui était la question de la prévention, de découvrir des hommes qui sont toujours restés dignes, je peux le dire comme ça, debout, et qui m'ont appris beaucoup de choses. Voilà, c'est en partie à eux que ce livre est dédié.
Vous donnez une belle raison, je trouve, de lire ce livre, Éclat de silence, publié aux éditions Libelle. Peut-être en faudrait-il encore davantage, allez-vous penser, auditeur, auditrice, peut-être aimeriez-vous avoir quelques exemples, quelques portraits de ces hommes. Eh bien, je vous propose, Omar, d'abord d'écouter Rumba Argelina, et puis ensuite, peut-être allons-nous entrer davantage dans ce livre. Je crois qu'on a quand même beaucoup fait, mais avec des portraits, des propos de certains. Vous avez évoqué Mimoun, je crois qu'il y a un Mohamed G qui vous tient à cœur. Voilà, on pourrait faire cela. Il n'y aura pas de chronique presque littéraire dans quelques instants, auditeur auditrice de Francis. Donc écoutons un premier titre et puis ensuite tentons de plonger encore plus que ce que nous avons fait depuis le début d'émission dans ce livre Éclat de silence, publié par vous-même, Omar Alouche, enfin disons écrit et publié aux éditions Libelle en mai dernier. Voilà, ça va être le déroulé de cette fin d'émission. J'aurai quelques annonces aussi à faire sur des spectacles, mais il y en a peu. Rumba Argelina du groupe Radio Tarifa, et nous continuons plus précisément, enfin nous continuons à parler de ce beau livre Éclat de silence.
Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Es que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle. A ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. A ti lo que te gusta, mora, un palito de ron.
Bonne chose. Ce morceau, il se termine très doucement, comme ça. Il nous a laissé reprendre un peu notre souffle. Omar Alouche, vous êtes toujours là pour parler. Il nous reste encore 10 minutes, c'est ça, pour évoquer ce beau livre, à la fois le format, les éditions. Je le redis encore une fois, hein, je dis souvent les mêmes choses, je me répète beaucoup. Les éditions Libelle, hein, qui publient de beaux ouvrages. C'est bien relié, c'est une belle couleur, c'est assez élégant. Le titre « Éclat de silence » de vous-même, Omar Alouche, publié en mai dernier, mai 2023. Et donc, je ne sais pas, en trois mots, résumer ce livre, ce sont des paroles d'immigrés de tous endroits. Hein. J'évoquais ces vers extraits d'un poème qui est sur la couverture. « Émigrés du Rif, de Basse-Normandie, des Aurès, de Tunisie ou d'Arménie, ils sont un jour arrivés sur les rives du Rhône. » Nous nous proposions, auditeurs, auditrices, de lire quelques extraits de certains de ces immigrés, ça dépend. Est-ce qu'on se place dans leur pays d'origine? Ils en sont partis, ce sont des émigrés, et en France ils sont arrivés immigrés avec un mot un peu connoté en France, tout de même en français. Vous évoquiez figure de, ce n'est pas tant lui le philosophe Mimoun, mais c'est intéressant, la valise dans la tête. Mmh. Il y a Mohamed le philosophe, c'est comme ça que vous le nommez, enfin même vous le mettez un adjectif. C'est le philosophe qui s'ignore, ou c'est je ne sais plus comment vous le présentez. Est-ce qu'on lit certains de ces textes, Omar? Est-ce que vous en avez un sous les yeux? Moi, j'ai Amel dans l'impossible oubli.
Que je cherche en fait la page, parce que c'était pas celui-là que je voulais dire, mais je.
On s'est parlé du désert bleu. Il y avait, oui, également le pays de Pierre Loti.
Alors je vais peut-être. Alors c'est tout à fait arbitraire, parce que 57 textes, c'est toujours frustrant, mais c'est comme ça. Un texte que j'aime particulièrement, qui s'appelle Le pays de Pierre Loti. Alors je dis simplement dans quel contexte ça se passe. Nous sommes au foyer Lapi.
À Vaux-en-Velin.
À Vaux-en-Velin. Et on projette ce soir-là le film d'Yamina Benguigui qui s'appelle Mémoire d'émigrés. Alors, bon, je raconte un peu l'ambiance. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes du quartier. Et puis, il y a un moment de grande émotion quand un des personnages, qui est tunisien, raconte en fait que pendant sa traversée, c'était quelqu'un qui parlait déjà le français, ce qui était exceptionnel à l'époque, ce qui n'était pas du tout
commun, fréquent, oui.
Très fréquent dans les milieux immigrés, et qui avait lu Pierre Loti. Voilà, bon, d'où cette référence au pays de Pierre Loti, et qui raconte pendant la traversée un geste qui l'a profondément. Quand il le raconte, qui le bouleverse totalement, puisque en racontant l'histoire de sa traversée, il raconte que il a jeté par-dessus bord les boulettes à l'huile d'olive que lui avait
boulettes de viande,
que
lui préparait sa mère,
que lui avait préparé sa mère. Et là, à ce moment-là, sa gorge se noue, Il se met littéralement à sangloter, parce que c'est un geste qui le rattrape. Il a vécu ça comme un geste de trahison vis-à-vis. Il jette les boulettes,
et le tarbouche de viande aussi.
Et le tarbouche qu'il avait sur la tête.
La petite coiffe rouge et, traditionnelle.
Et le film, à ce moment-là, on le voit vraiment sangloter, littéralement. Et avec la musique de Yara.
Que nous écoutions tout à l'heure.
Dans
la version de Rachida.
Alors, je reviens à mon personnage, je vais essayer de lire rapidement. Et je dis, l'émotion était palpable dans la cafétéria. Amar, un des plus anciens résidents de foyer assis près de moi, suffoque sur son fauteuil roulant. Il ne peut supporter d'en entendre plus. Magali et moi le sortons de la salle. Il transpire à grosses gouttes malgré la fraîcheur de cette soirée d'automne. La voix altérée, il nous signifie qu'il ne désire pas continuer à voir le film et demande à être ramené dans sa chambre. Que s'est-il passé ce soir-là pour Amar ? Pourquoi le témoignage de cet ouvrier tunisien l'a-t-il autant bouleversé ? Quelque temps après, j'ai la réponse en relisant le récit qu'il m'avait fait de sa propre traversée.
J'avais 18 ans.
J'étais heureux de partir avec mes copains. Je n'avais pas de peine. Au contraire, on allait avoir du travail en France. Je rêvais de découvrir ce pays où tout le monde roulait en voiture et portait costume. Seule ombre à ce tableau, un souvenir perturbant ressurgit à ce moment de son récit. Après une longue pause, il poursuit, le visage grave, la gorge nouée. Ma mère, elle, était très triste. Elle ne voulait pas que je la quitte, que je ne revienne plus. Elle avait peur que la France m'ensorcelle et rêvait de me voir poursuivre mes études et rester auprès d'elle. Mais moi, je ne pensais qu'à partir et rien ne pouvait me retenir. En écoutant Amar, je me suis souvenu de cette citation d'un ouvrier rapportée par Abdelmalek Sayed, encore lui. C'est ainsi que la France nous pénètre tous jusqu'aux os. Une fois que tu t'es mis cela dans la tête, c'est fini. Cela ne sort plus de ton esprit. Fini pour toi les travaux, fini l'envie de faire quelque chose d'autre. On ne voit plus rien d'autre, on ne voit plus d'autre solution que partir. Voilà, c'est un texte qui donne un peu la tonalité à la fois de la séparation, de l'arrachement, mais aussi de la culpabilité de partir. Donc il y a plusieurs textes d'ailleurs dans ce livre-là qui parlent de la culpabilité, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que les travailleurs immigrants qui étaient venus beaucoup avaient quitté l'Algérie au moment de la guerre d'Algérie, donc ils portaient cette histoire de la guerre dans leur tête. Et ils l'ont vécu avec beaucoup de culpabilité parce qu'ils avaient laissé leur famille, leurs enfants, leurs proches au pays, mais pour une bonne raison qui était effectivement de trouver du travail et de venir en aide à leur famille. Donc il y a plusieurs textes qui sont consacrés à cela, mais il y a aussi des textes, on n'aura malheureusement pas le temps, je pense, d'en parler, qui sont écrits autour de ce que m'a livré Mohamed Ralouche. C'est le seul que je cite par son nom et son prénom, parce qu'il m'y a autorisé, m'a autorisé à ça, et qui m'a vraiment... Il y a 11 textes qui tournent autour des propos de Mohamed Ralouche. Alors Mohamed Ralouche, c'est celui qui était à la fois le sociologue, l'expert du quartier.
Informaticien aussi, hein, c'est ça ?
Pardon ?
En informatique aussi, non ?
Je l'ai connu parce qu'il était passionné d'informatique. Il était berger au départ. Il est né à Gouraï, des montagnes de l'Atlas, au Maroc. C'était un riffin. Il était berger, mais il a eu la chance extraordinaire d'aller jusqu'au brevet. Donc il parlait très bien. Et ses copains l'appelaient le Parisien, c'est de dire. Mais et malheureusement pour lui, il n'a pas pu poursuivre des études. Et quand il est arrivé, il a fait le parcours du combattant, comme tous ses compatriotes. Il a été ouvrier agricole, il a été reaper. C'est lui qui m'a appris ce mot-là. C'est celui qui travaille derrière les bennes d'ordures. Et il a terminé chez Alstom comme magasinier. Donc il a fait quand même un parcours. Et lui, c'est celui qui m'a... livré avec Mourad, mais malheureusement, là aussi, il n'aura pas le temps d'en parler. C'est celui qui m'a livré sa vision du quartier, qui s'est posé des questions sur des thématiques qui sont toujours d'actualité. Les enfants dans la rue, la coupure entre le monde de l'intérieur, du dedans, et le monde de l'extérieur, la difficulté pour le migrant à maîtriser ce qui se passait dans la rue. Il a beaucoup de textes sur la rue comme un espace que les citoyens ne maîtrisent pas. Il a beaucoup de textes aussi sur les errances de certains jeunes d'origine maghrébine. C'est celui aussi qui a vu venir un certain nombre d'événements que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il m'a parlé de sa peur, la peur qu'il avait en regardant les propres enfants du quartier, de la manière dont les propres enfants du quartier regardaient les autres. Entre guillemets, les autres, je mets tous les guillemets possibles. Comment ils voyaient les Français, entre guillemets. Et il avait des paroles extrêmement prémonitoires. Il a des paroles extraordinaires sur l'école. Quand il me dit l'école est malade parce que la société est malade. C'est-à-dire, il dit, voilà, l'école ne fait que, au fait, récolter les problèmes de la société, les fractures qui sont à l'intérieur de la société, et elle n'est pas à l'origine de ces problèmes-là, elle est simplement, quelque part, elle récolte, en fait, elle charrie tout ça. Voilà.
Elle souffre du résultat.
C'est des textes, il y a énormément de textes, mais bon. On n'aura pas le temps, malheureusement, de les lire.
C'est le titre de ce chapitre. Moi, je me trompais depuis le début de l'émission, je crois. C'est lui que je voulais qualifier de philosophe. Mais non, c'est l'ambassadeur, vous dites.
L'ambassadeur.
C'est l'ambassadeur. Fin d'émission, il est 15h. Ce n'est plus le blues des canuts qui a lieu à ce moment-là. Le blues des canuts est décalé à 16h. Omar, je fais quelques petites annonces. Et puis, vous verrez, clin d'œil, on se terminera. On s'est quand même mis d'accord avec la Moldau de Smetana. Quelques petites annonces parce que, voilà, on est fin novembre, début décembre. Il commence à faire très, très froid. Alors oui, il y a quelques spectacles auxquels aller, mais j'ai l'impression que c'est un peu moindre, peut-être. Les institutions culturelles lyonnaises vous laisseraient-elles le temps, auditeurs, auditrices, de lire ce livre ? Éclat de silence d'Omar Alouche. Il y a quand même un petit peu de musique à l'auditorium. Trois concerts différents à venir. Le samedi 2 décembre, c'est ce samedi-là, le Sacre du Printemps à 18h. L'Orchestre National de Lyon sous la direction de son ancien chef Leonard Slatkin. Un ciné-concert à venir le samedi suivant. C'est le même. En fait, c'est sur trois jours. Les jeudis 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre, le ciné-concert L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est-à-dire que le film de Tim Burton, enfin, le film produit, le film sous influence Tim Burton est projeté avec la musique jouée par l'orchestre, et puis un concert le surlendemain, Marisa, le lundi 11 décembre. Marisa, cette belle artiste portugaise qui chante du fado. Voilà, c'est pour la musique. Pour ce qui est du théâtre, plusieurs pièces à venir, mais seulement dans ces deux théâtres que je vais évoquer, les Célestins et le TNP. Au Célestin, Gratitude, c'est au pluriel, les Gratitudes. Et puis il y a aussi un titre un peu plus long, mais qui est très beau, que Sur toi se lamente le tigre. Ces pièces commencent toutes les deux, bien, les Gratitudes ce soir, ce mercredi 29 novembre, Que sur toi se lamente le tigre demain, le 30 novembre, et se termine la semaine prochaine, les 9 et 6 décembre, des pièces de Delphine de Vigan, une adaptation bouleversante du roman de Delphine de Vigan, et pour Que sur toi se lamente le tigre, un texte d'Emilienne Malfatto, un amour hors mariage. Il y a une pièce au TNP à venir, ça commence demain, jeudi 30 novembre, c'est assez intéressant, une pièce en italien, surtitrée en français, heureusement, Diari d'amore, c'est une pièce de texte de Nathalie Ginsburg, ce sont des pièces de théâtre mises en scène par un cinéaste, Nanni Moretti vient à Lyon pour ces deux pièces, Fragola e Panna, et l'autre s'appelle Dialogo. Donc le titre général, c'est Diari d'amore. Cela commence jeudi 30 novembre, c'est jusqu'au jeudi 7 décembre. C'est au TNP. Nanni Moretti sera peut-être présent si vous souhaitez l'apercevoir. Et puis enfin, des expositions, il y en a diverses à venir. Moi, je vous invite, auditeurs, auditrices, à être attentifs dans les rues de Lyon et peut-être surtout les rues de la Croix-Rousse à des dessins qui sont très, très curieux, une sorte de petits bonhommes qui sont en fait des clitoris. C'est l'artiste Clitine qui viendra la semaine prochaine pour parler de ces dessins qui sont assez plein de couleurs, plein de vie, mais qui cachent, ou disons qui sont en rapport avec dont le propos est tout de même plus intéressant que seulement la couleur. Le propos est sensibiliser un peu toutes les personnes qui peuvent voir ces dessins aux questions d'inégalité pour ce qui est des problèmes de santé. pour les femmes notamment. Enfin voilà. Nous évoquons cela la semaine prochaine avec l'artiste Clitine. Pour nous quitter, on écoute la Moldau. Un dernier mot, Omar, non?
C'est
éclat de silence. C'est,
oui, mais alors c'est,
ou la Moldau.
Après le silence, la Moldau. Parce que c'est un morceau qui me rapproche beaucoup de feu mon père, parce que c'est le disque qui m'a fait découvrir un retour de sanatorium, et donc c'est la Moldau reste pour moi quelque chose de qui me relie très fortement à mon père et à ma propre histoire dont j'ai commencé à parler tout à l'heure dans cette émission. Voilà.
Dans 30 secondes, il va commencer, une fois que j'aurai annoncé auditeur-auditrice, à 15h03, ce n'est pas le Blues des Canuts, et donc voici les programmes à venir. Blues des Canuts, ce sera à 16h. Tout d'abord, les bandes continuent dans un premier temps. 18h, Mayday. 19h, le Canu Info. 20h jusqu'à 21h, Idées Noires, émission de l'UCL. Et à 21h, devrait bien avoir lieu la bande-son de nos révoltes, musique radicale et propos engagés, avant l'émission à 22h pour terminer ce mercredi. Bully Mix, émission de Funky Stery. Omar, merci beaucoup, ça a été une belle rencontre. Je vous remercie pour ces différentes lectures que j'ai pu faire. La première publiée chez l'Armatan de Sebdou à la Croix-Rousse était très intéressante, mais Éclat de silence, il y a plus un travail d'écrivain derrière, et c'est très bien. La Moldau, c'est un beau. Merci Omar, c'est également une belle manière de se saluer, de se dire au revoir. Auditeur, auditrice, si vous souhaitez croiser Omar, faites-vous des dédicaces parfois dans certaines librairies marcheur de la Croix-Rousse.
Je vais en profiter pour faire ma propre
pub. Oui.
Je vais présenter le 22 janvier à la mairie, juste
du premier arrondissement, sur la place Athénée.
Le 22 janvier, donc, à 6h30, pour ceux qui voudraient continuer à découvrir le travail que j'ai fait, à 18h30 à la mairie, une rencontre qui sera animée par un comédien qui va lire mes textes, qui s'appelle Dominique Lurcel, qui est à la tête d'une compagnie qui s'appelle Passeur de mémoire, et Denise Brahimi, qui est une universitaire professeure de français à la fac d'Alger, qui va me faire le plaisir aussi d'animer ma propre séance. Voilà, donc je donne rendez-vous aux Croix-Roussiens et aux autres.
Et sinon, on peut vous croiser dans les rues de la Croix-Rousse.
Le 22 janvier.
très bien. La Moldau. Omar, portez-vous bien, auditeur auditrice, à la semaine prochaine. Merci.
Merci pour votre accueil.
Merci.